il s'est déplacé en cette journée de pluie. Daniel Lapalme, bonjour.
Bonjour.
Daniel Lapalme, vous êtes agent de liaison, formateur du programme d'adaptation des pratiques aux réalités paternelles, qu'on appelle aussi PAPA.
Oui, on a des longs acronymes.
Oui, du regroupement pour la valorisation de la paternité. Alors, la fête des pères s'en vient. On a pensé parler des pères, pourquoi pas. C'est comme un heureux hasard.
Un bon moment.
Oui, un bon moment. Et Daniel Lapalme, on commence par le commencement. La mission du regroupement pour la valorisation de la paternité, quelle est-elle?
Bien, la mission, en fait, c'est de regrouper les acteurs qui sont concernés, oui, par la valorisation de la paternité, puis de faire un bout de chemin. Faire un bout de chemin, ce serait d'adapter, donc c'est souvent des organisations, des organismes communautaires. Ça peut être des organisations comme la Fédération des organismes familles, l'Association des Haltes-Garderies communautaires du Québec, exemple. Puis eux vont vouloir adapter leurs pratiques pour mieux inclure et mieux rejoindre les pères. Donc nous, on les accompagne dans ce processus-là. Ça, c'est une partie de la mission.
Mm-hmm.
L'autre partie de la mission, c'est pas mal notre directeur Raymond Villeneuve qui est là-dessus, c'est de s'assurer que les réalités paternelles sont présentes dans les politiques publiques. Alors là, quand tout à coup, il y a une politique qui s'en vient ou qui est en rédaction, qui touche la famille, des fois, ben oui, les services sociaux, est-ce que la réalité des pères, est-ce que le mot père apparaît? Est-ce qu'il va être visible? Qu'est-ce qu'on en dit? Alors là, on veut faire ressortir le père pour, après ça, donc, adapter et aller les rejoindre. Parce qu'on ne les voit pas souvent, les pères, dans les organisations, même dans les services.
C'est pourquoi?
Je pense qu'il y a une raison un peu, un peu traditionnelle puis historique. Puis je dirais, pour faire une réponse courte, souvent, les pères qui sont des fois le plus en détresse, ou les pères qui correspondent, qui ont une masculinité un peu plus traditionnelle, mettons que ce n'est pas en adéquation avec le service d'aide, la présentation, la façon que les services sont offerts, ça correspond pas à, ça leur correspond peu, ils ne se retrouvent pas là-dedans.
Ils ne se sentent pas interpellés, ils ne se sentent pas dans le coup.
C'est ça. Donc là,
alors, ils restent muets.
C'est ça. On les voit peu, on ne les voit pas. Fait que là, c'est comment on peut aller les chercher?
Ouais.
Comment on peut renouer un peu ce dialogue-là?
Et alors, comment vous faites?
Comment on fait? Ben, disons qu'il faut aller... Il y a beaucoup de petits trucs qu'il faut ajouter. Ça veut dire qu'il faut aller vers les pères, pas attendre qu'ils viennent vers nous. Ils se trouvent où, les pères? Hein, il faut organiser des activités famille. Souvent, les pères, ils n'aiment pas ça, aller demander de l'aide. Mais si une organisation fait une activité famille, par exemple, tu sais, ben là, le père, si c'est le barbecue, mettons, pour la fête des pères qui s'en vient, puis on dit à un père, « Hey, tu viens-tu me donner un coup de main? J'ai besoin de quelqu'un là pour... tourner l'OC6 ou juste placer l'équipement. Là, le père, d'habitude, il se présente, il vient. Dans ce genre de rôle-là, il est plus confortable. Donc, il y a une façon d'aller vers lui pour aller le chercher davantage. Puis après ça, je vous dirais, quand on va plus loin, quand on est vraiment dans des demandes d'aide où il y a une détresse intense chez le père, bien souvent, les pères attendent à la dernière minute avant de demander de l'aide.
Et même, souvent, il est trop tard. Ça peut arriver qu'il soit trop tard.
Donc, là, quand on est dans une espèce d'économie de service où on a des boîtes vocales, il faut laisser des messages, il y a des listes d'attente, souvent, c'est trop long.
Ouais.
Donc, en gros, est-ce qu'on peut répondre plus vite au téléphone, répondre plus vite à la demande, puis répondre présent de vive voix? Ça, c'est une chose. Puis après ça, il y a un rapport aussi, créer un peu une relation très horizontale avec le père.
Ça veut dire quoi, c'est une
relation horizontale? Souvent, quand on va demander de l'aide, hein, on peut se sentir comme, ben là, je tends la main. Hein, c'est un sentiment qu'on peut avoir en demandant de l'aide.
Mm-hmm. On peut se sentir inférieur?
D'une certaine façon. C'est qu'à ce moment-là, nous autres, ce qu'on suggère souvent aux intervenants, c'est de dire, quand on travaille dans l'informel, là, tu sais, des fois, quand le père, mettons, il est de passage, il vient laisser l'enfant à la garderie, puis il part, il rentrera pas. Tu sais, des fois, il fuit un peu. Ben, est-ce qu'on peut juste l'accrocher dans le cadre de porte puis prendre de ses nouvelles?
Comment ça va?
Bonnement. Comment ça se passe chez toi? Puis, bon, ben, j'ai vu, juste souligner aussi les bons coups. Hey, t'as-tu vu comment ta petite a te souri, là? Ça, c'est beau. Elle est contente. Puis, que des fois, c'est juste dans l'informel comme ça qu'on crée des petits liens. Puis après ça, une fois que ça s'installe, là, on peut aller creuser un peu,
ouais, je vous dirais. Le regroupement existe depuis 27 ans. Est-ce que vous avez aidé beaucoup de pères depuis le début?
On travaille essentiellement avec les organisations. Fait que nous, on va travailler, on va accompagner et former les intervenants,
Donnez-nous un exemple concret, là, un organisme. Qu'est-ce que cet organisme fait auprès d'un père ou des pères?
Donc, une organisation nous appelle et nous dit « Bon, ben moi, je ne vois pas beaucoup les pères chez nous. Ils ne viennent pas. »
Quel genre d'organisation?
Ça peut être une maison de la famille. C'est ce qu'on voit souvent. Mm-hmm. Puis, mettons, ils vont dire, ben nous autres, on a peut-être des pères, on en a 4-5 qui gravitent de temps en temps, mais on ne les voit pas beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut faire?
Ils ne s'impliquent pas, ou en tout cas, ils n'ont pas l'air de vouloir s'impliquer.
Ouais. On les a vus, mettons, deux fois dans l'année, au souper de Noël, puis justement, un pique-nique. Puis après ça, on ne les voit pas beaucoup. Pourtant, on fait des activités à chaque semaine. Mm-hmm. Mais là, après ça, on regarde avec eux. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on offre des activités en soirée puis en fin de semaine? Parce que souvent, les pères, ben journée, ils travaillent. Ouais. Déjà, c'est une chose.
Les mères aussi.
Les mères aussi. Mais des fois, à cause de certains, certains, mettons, un congé parental, un congé de maternité, des fois, on peut voir un peu plus les mères. Donc, ça, c'est une chose. Donc, est-ce qu'on peut adapter notre horaire? Après ça, on va regarder un peu le local. Notre local, est-ce qu'il est invitant? Est-ce qu'on a des affiches où on voit des pères qui sont là avec leurs enfants? Est-ce qu'on voit des photos de pères? Est-ce que le père qui rentre dans le local
se sent accueilli?
Ouais. Est-ce que quand j'envoie...
Accueilli,
oui. Est-ce que quand j'envoie mon message sur ma page Facebook pour l'invitation, est-ce que j'écris, mettons, j'invite père, mère, coparents à venir à l'activité?
Coparents, c'est quoi ça?
Coparents, bien, c'est parce que des fois, quand on dit... le coparent, c'est l'autre parent, je vous dirais. Il y a dans le sens où il y a deux parents. Il y a toujours deux parents. Bien, il y a toujours deux parents. Non, comment je dirais? Attends, je reprends. Le coparent, c'est...
Un enfant, ça se fait à deux.
Bien... Oui, un enfant, ça se fait à deux, mais en fait, un coparent ou RVP, on prend la dimension, la définition la plus large. Donc, c'est tout adulte qui est significatif pour l'enfant puis qui veille à son bon développement.
Une figure parentale.
Parentale.
Un tuteur ou...
Ça peut être un tuteur parce que, par exemple, ça peut être une jeune mère, mais par exemple, c'est son père à elle, donc le grand-père qui l'aide beaucoup, bien, le grand-père devient un coparent. Mm-hmm. Ça peut être, il y a eu une séparation dans un couple, mais tout à coup, il y a une belle-mère ou un nouveau beau-père. C'est un coparent. Ça peut être un oncle ou un ami qui est très présent dans la vie de l'enfant, puis qui est là. Donc, c'est ça, un coparent.
Ouais. Mais quand vous parlez d'aide aux pères, est-ce que ce sont des pères d'un certain âge? Parce que vous parliez aussi d'un modèle peut-être plus traditionnel du père. Parce que les jeunes pères, on les voit de plus en plus impliqués auprès de leurs enfants. Et ça ne veut pas dire que les pères traditionnels ne le sont pas, mais ils le sont d'une autre façon.
Exactement.
Je ne sais pas, est-ce que la détresse est la même? Quels sont les problèmes des pères selon la génération à laquelle ils appartiennent?
Je dirais que dans la nouvelle génération, on l'a vu beaucoup aussi avec tout ce qui est issu de la COVID au niveau santé mentale. Là, ça a été relevé qu'il y a des difficultés, il y a eu de la détresse élevée psychologique chez les pères qui sont jeunes. Mais oui, les pères qui sont jeunes, on les voit un peu plus et sont justement très alertes et sensibles aux réalités coparentales. Donc, voir comment je peux faire une bonne équipe avec l'autre parent. Ils sont extrêmement sensibles à ça et on les voit bien. Et que je vous dirais qu'au RVP, quand on parle de paternité, on parle de paternité au sens large. Ça peut être aussi un nouveau père, qu'un père qui est d'une génération ou un peu plus vieux. Cela dit, c'est juste que des fois, on s'arrête particulièrement sur ces pères-là dans les formations parce qu'on le sait que ces pères-là sont plus difficiles à rejoindre. Puis des fois, je vous dirais... Plus on a un modèle traditionnel de père, de père qui est traditionnel, plus des fois il faut adapter notre intervention pour aller le rejoindre.
Et Daniel Lapalme, est-ce qu'il existe un portrait de la situation des pères qui vivent avec un handicap au Québec?
Pères qui travaillent, pères qui ont un handicap, mm-hmm. Je serais peut-être pas la meilleure personne pour répondre. Moi, je travaille beaucoup avec des pères dont les enfants sont handicapés. Cela dit, le RVP s'implique avec Société Inclusive. Là, on a un projet de recherche où on va s'attarder un peu à mieux connaître les besoins et les défis que les pères handicapés vivent ou que certaines personnes handicapées qui veulent devenir donc pères mm-hmm. ont pour s'arrêter un peu puis voir comment ils peuvent être mieux appuyés éventuellement puis qu'on puisse mieux les accompagner.
Donc, alors, ça, c'est... il y a une recherche qui va se faire?
Il y a une recherche avec Société Inclusive pour laquelle, dans laquelle le RVP, pour laquelle le RVP collabore.
RVP qui est...
Dans le regroupement pour la valorisation de la paternité. Ouais. On est là un peu à titre de membre consultatif. Donc ça, c'est tout nouveau. Ça commence.
Oui. Est-ce que ça a un lien avec l'atelier qui a été donné en février 2023, Proche aidance, paternité, coparentalité, des défis importants à relever? Est-ce qu'on en parlait de ces pères en situation de handicap ou des pères d'enfants handicapés?
Oui. L'atelier dont vous faites mention, c'est que là, cette fois-ci, c'est qu'on travaille beaucoup la coparentalité. À ce moment-là, c'est dans le cadre d'un programme qui est financé par le ministère de la Famille. Et on regarde... c'est quoi les défis, c'est quoi les réalités coparentales, donc dans l'équipe des parents, hein, là on ne s'arrête pas juste au père, là on est vraiment dans l'équipe parentale qui ont un enfant ou qui ont en charge une personne qui a un handicap, parce que ça a ses particularités et ça s'adressait aux organisations qui ne sont pas nécessairement spécialistes. Exemple justement, un organisme communautaire qui n'est pas spécialiste, ce n'est pas lui sa spécialité de recevoir des enfants qui ont un handicap. Mm-hmm. Mais par exemple, on voulait rejoindre ces organisations-là qui sont plus généralistes pour leur dire vous avez quand même des forces, vous avez quand même, il y a quand même des actions que vous pouvez faire pour aider ces parents-là dans leur coparentalité. Quand on parle de coparentalité, là, on pense beaucoup à le partage des tâches, comment ça se fait, la cohérence parentale. Tu sais, j'élève mon enfant, c'est les règles à la maison, les valeurs. Comment on s'oriente avec ça? On parle aussi de la reconnaissance de l'autre parent, entre parents, comment on reconnaît le travail de l'autre, puis comment on communique ensemble aussi. C'est ça, la coparentalité. Alors, évidemment...
Vaste programme.
C'est ça. Quand on arrive, puis là, on est des parents qui sont débordés parce qu'on a une réalité parentale avec des enfants qui ont des handicaps, ça peut être très...
Énergivore, confrontant.
Ben voilà, ça pose des défis supplémentaires.
Oui, oui. Et donc, vous êtes responsable du programme d'adaptation aux réalités paternelles?
Moi, j'y suis formateur et agent de liaison avec deux autres collègues, oui.
Et ça vous occupe à temps plein, j'imagine. Et Daniel Lapam, comment on peut mieux soutenir les pères en général? Ça va être ma dernière question.
De façon générale?
Oui.
Ben, je dirais justement, adapter les horaires, aller vers eux, puis je dirais... les appeler, pas attendre qu'ils nous appellent. Mm-hmm. Ça veut dire que si à un moment donné...
Pas juste les appeler à la fête des pères non plus?
Non, c'est ça. On est là, on est présent. Puis des fois, c'est d'avoir le réflexe paternité qu'on dit. C'est qu'on fait une activité, on reçoit une mère, on est peut-être même une direction d'école, on reçoit un enfant. Puis là, on se dit, bon, le père, il est où? Puis le père... Parce que des fois, s'il n'est pas là, il est un peu invisible dans le portrait. Fait que c'est de...
Comme s'il n'existait pas.
Ouais, il est comme le parent en pointillé.
Manquant.
Puis là, on... Il faut l'inviter aussi dans notre discussion. Donc, c'est de le rendre visible. Mm-hmm. Voilà.
Et ma vraie dernière question, un père heureux, selon vous, Daniel Lapalme, qui en connaissait pas mal sur la paternité?
Bien, c'est un père qui se sent compétent. Donc, ça veut dire qu'on valorise aussi son travail de père. Puis je dirais, c'est un père qui est impliqué. C'est un père fier aussi.
Alors, si on veut avoir plus d'informations sur le regroupement pour la valorisation de la paternité...
Oui.
Qu'est-ce qu'on fait?
Bien, d'une part, on a un site web qui est vraiment complet. On s'arrête là. On a une page Facebook aussi. Puis sinon, bien, on téléphone. Tu sais, on trouve un numéro de téléphone, on m'appelle, puis moi, je réponds des questions.
Okay.
Ça me fait
plaisir. En avez-vous à donner un numéro de téléphone?
Oh mon Dieu. Par cœur, comme ça, maintenant, c'est facile.
J'ai votre numéro privé, peut-être?
On se retrouve. Oui, c'est ça. C'est mon,
non,
mais on peut le donner. Ouais. C'est mon numéro. En fait, c'est mon numéro de formateur.
OK. Alors, je l'ai devant moi. 514-559-2727.
Oui. On veut des informations, on m'appelle, ça va me faire plaisir.
Je répète, 514-559-2727 pour parler directement avec Daniel Lapalme, qui est agent de liaison et formateur du programme d'adaptation des pratiques aux réalités paternelles du regroupement pour la valorisation de la paternité. Merci beaucoup, Daniel Lapalme, de vous être déplacé dans nos studios. Et puis, permettez-moi de vous souhaiter une bonne fête des pères.
Ben merci.
Puis, je ne sais même pas si vous êtes père, j'imagine
oui,
que oui.
Je suis père d'un garçon de 13 ans et d'un autre de bientôt 18 ans. Donc
ah, oui.
Un grand merci.
Merci à vous.